La vérité sur les vaccins, vaste débat, on en parle maintenant avec notre invité, il est 8h21.
France Inter, le 6-9 du week-end.
Et ce Covid-19, toujours en attente d'un vaccin, mais que n'entend-on en France comme ailleurs sur les méfaits des vaccins qui font peur? Les vaccino-sceptiques ont la dent dure. Eh bien voilà un livre qui écoute leurs arguments avant de les démonter. La guerre des vaccins, le livre paraît chez Odile Jacob et vous en êtes l'auteur. Patrick Zilberman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la santé, professeur émérite à l'école des hautes études en santé publique. Parmi les principaux arguments des anti-vaccins, ceux qui arrivent en tête, c'est quoi? C'est la liberté de choisir, la liberté individuelle au-dessus de tout?
Alors, il y a deux grands groupes d'anti-vaccins qu'il ne faut pas confondre. Il y a les anti-vaccins qui analysent historique, je dirais, dont l'impact sur l'opinion est quasiment nul et qui sont opposés à toute espèce de vaccination, quelle qu'elle soit, parce que ils ont peur du produit, ils ont peur des produits, ils ont peur aussi des vaccinateurs, finalement. Mmh. Et puis, il y a aussi un mouvement qui progresse petit à petit aujourd'hui, qui est opposé à certains vaccins et pas à d'autres. Par exemple, le vaccin contre l'hépatite B n'est pas bien vu, le vaccin contre la grippe pareil, mais d'autres vaccins sont parfaitement acceptés. Une méfiance, un malaise, si vous voulez, face à la vaccination, qui peut paraître assez paradoxal, puisque tout le monde sait que si la variole a disparu, c'est grâce à la vaccination.
Et la varicelle, et la coqueluche.
La varicelle, la coqueluche, etc., sont contenus grâce à la vaccination. Et on voit bien que lorsque la vaccination recule, on le voit avec la rougeole, si vous voulez, les maladies infectieuses reviennent. Tout ça est bien connu. Et pourtant, il y a cette méfiance vis-à-vis des vaccins. Ça, c'est ce que j'essaye de comprendre, si vous voulez, dans ce livre.
Il y a notamment aux États-Unis la crainte d'un empoisonnement du sang. Hein. C'est une démarche quasi écologique ou plutôt naturaliste. C'est aussi l'un des moteurs du refus vaccinal.
Alors oui, mais si vous voulez, ça concerne ce que j'ai appelé les anti-vaccins canal historique.
Ouais, d'accord.
C'est l'idée que le vaccin est un poison, c'est une très 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 vieille histoire. C'est je dirais la base de la compréhension culturelle de la pharmacie. Tout remède est aussi un poison, tout dépend de la dose à laquelle vous l'injectez.
En France, ce vaccino-scepticisme commence à dater. Hein. Vous évoquez dans votre livre la Ligue nationale contre l'obligation des vaccinations. Elle trouve son origine dès 1948.
C'est ça, exactement. Enfin, elle a été fondée en 54, mais si vous voulez, il y a eu des premiers regroupements dès 1948. En fait, déjà dans l'entre-deux-guerres, certaines familles avaient tendance, si vous voulez, à condamner les vaccins purement et simplement lorsqu'il y avait quelques accidents après vaccination. Donc ça remonte, oui, effectivement, à loin. En réalité, la contestation de la vaccination a toujours existé. Elle est aussi vieille que la vaccination elle-même.
Est-ce que vous n'allez pas trop loin dans votre livre quand vous faites un parallèle entre les mouvements anti-vaccins et les mouvements sectaires? Qu'y a-t-il de sectaire dans ces anti-vaccins?
Non, je pose la question. Est-ce qu'il s'agit de secte? Et je dis non, il s'agit pas de secte, il s'agit d'un tissu affectif, si vous voulez, de petits groupes qui sont marqués par un sentiment de persécution et qui, par conséquent, se réunissent, si vous voulez, et échangent des idées, des revendications dans une logique où ils se présentent comme des parias.
Mais il y a quand même une sorte d'idéologie derrière ça et l'idée d'une conspiration, c'est-à-dire en tout cas l'idée d'un pouvoir comploteur. On ne donne pas le droit à l'État de se mêler de ça, je dirais.
Voilà, exactement. Si vous voulez, il y a deux grands panels idéologiques, je dirais. D'abord le naturalisme que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'idée que la nature fait très bien les choses et que dès que l'homme s'en mêle, c'est là où les catastrophes apparaissent. Donc, surtout ne pas vacciner, laisser la nature guérir elle-même les maladies infantiles et l'aider même en organisant des goûters varicelle ou je ne sais quoi dans ce goût-là. Et puis il y a un autre panel, si vous voulez, qui est effectivement la la tendance à accuser la médecine de fabriquer des maladies nouvelles avec les vaccins ou les traitements qu'elle propose.
Là, ce serait un lobby pharmaceutique.
Alors voilà, ce serait à ce moment-là, si vous voulez, une vaste conspiration qui réunirait l'industrie pharmaceutique, les experts corrompus, bien entendu. Quand on est expert, on est forcément corrompu. Les gouvernants, etc., etc. Une très très vaste conspiration, c'est le style que j'ai appelé en empruntant la formule à un historien américain, le style paranoïde en politique.
Est-ce que les anti-vaccins sont politisés en France, en tout cas?
Alors, il y a des tendances au rapprochement avec les écologistes, avec certains écologistes. Il faut pas non plus généraliser, mais il y a eu en 2007 par exemple un rapprochement entre certaines organisations anti-vaccinales et le mouvement d'Antoine Wechter par exemple.
La droite catholique aussi à un moment, on a parlé des mouvements religieux à l'origine de la méfiance anti-vaccin, notamment la fraternité Saint-Pédis, hein, c'était dans les années 70 ce mouvement catholique intégriste de l'ex-monseigneur Lefebvre, hein, puisqu'il a été excommunié à la fin des années 80. Et quel rôle ont joué les religieux d'ailleurs dans la méfiance anti-vaccin?
Alors, les associations familiales et les associations de médecins catholiques ont joué un rôle dans les années 50-60, au moment où a été votée, par exemple, l'obligation de la vaccination par le BCG. Et c'est là où, si vous voulez, les associations de médecins catholiques, les associations familiales étaient en pointe dans le combat anti-vaccinal. Et puis, en France, si vous voulez, on n'est pas en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, les mouvements anti-vaccins sont très marqué religieusement, alors qu'en France, on est dans un cadre laïque.
Mais Patrick Zilberman, vous parliez tout à l'heure avec Éric Delvaux de fraternité. Et il s'agit, en matière de vaccins, il s'agit de soi, évidemment, mais aussi des autres, c'est-à-dire nos comportements à l'égard d'autrui. On se protège soi, mais on protège aussi les autres.
Exactement, et c'est là le point, si vous voulez, le point clé qui fait débat, c'est-à-dire que il y a une légitimité évidente à vacciner, par exemple, les enfants, parce qu'en vaccinant vos enfants, vous protégez non seulement ces enfants, mais également leurs proches, leurs petits camarades, etc., etc. Donc, si on peut obliger les parents à vacciner les enfants, c'est bien parce que ne pas le faire peut mettre en danger la vie des autres.
Le gouvernement Macron, il a augmenté le nombre de vaccins obligatoires, hein, au-delà donc de la diphtérie, tétanos et poliomyélite. On est passé de 3 à 11 vaccins obligatoires. À l'époque, il y a 3 ans, 2 ans et demi, les anti-vaccins avaient donné de la voix. Est-ce qu'on a pu mesurer les effets de cette loi déjà?
On aurait pu le faire, mais il devait y avoir un rendu, si vous voulez, de la première année d'exercice de cette loi des 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Et avec les grèves de cet hiver, ça a été impossible. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de rendu officiel.
Il y a aussi la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Quel est son poids, son influence de cette ligue vaccino-sceptique donc?
Oui, alors ça, le poids des anti-vaccins organisés est très difficile à savoir parce qu'ils ne communiquent pas sur leur nombre d'adhérents, par exemple. La Ligue nationale prétend avoir eu pendant un moment 12 000 adhérents. C'est absolument fondé sur rien du tout. On ne peut pas savoir, si vous voulez, le nombre d'adhérents de ces organisateurs. Il y en a deux principales, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations et puis l'association Liberté Information Santé, qui est encore plus radicale dans son anti-vaccinationnisme, mais on ne connaît pas réellement l'impact sur l'opinion. En réalité, on suppose que ces anti-vaccins organisés représentent, c'est-à-dire qu'ils sont opposés à toute vaccination, représente à peu près 2 ou 3% dans l'opinion.
Et cette guerre de l'opinion pour ou contre les vaccins, elle se joue aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est, vous le rappelez dans votre livre, hein, c'est un bon carburant pour le populisme.
Absolument, exactement, bien sûr. Le populisme donne une façade politique, si vous voulez, à ce combat qui auparavant en était dénué. Quoi.
Mais quand il y a une épidémie, par exemple, la donne change, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut agir rapidement, brutalement, c'est peut-être ça aussi qui heurte, mais qui peut être à la fois un frein et puis un accélérateur.
Alors, historiquement, si vous voulez, depuis la vaccination obligatoire contre la variole, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, on a une espèce de mouvement en deux temps. Lorsque l'épidémie est là, les gens réclament un vaccin et se font vacciner si le vaccin est là. Et puis, quand l'épidémie s'en va, à ce moment-là, on recommence dans les errements à propos des vaccins qui sont dangereux, et que les experts qui sont corrompus, etc., etc. Donc, il y a ce jeu entre oui et non, si vous voulez, qui dépend effectivement de la proximité du risque épidémique.
Patrick Zilberman, historien de la santé. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre des vaccins. Le livre paraît chez Odile Jacob, Les pour, les anti-vaccins. On va aller faire un tour au standard de France Inter avec quelques auditeurs qui veulent vous poser des questions. Joël est en ligne. Bonjour Joël.
Bonjour, bonjour.
Quelle est votre question ?
Alors c'était une question mais ça va devenir un conseil en fait.
Allons-y.
J'ai compris pourquoi ce monsieur n'arrivait pas à convaincre les gens de se vacciner. Moi je suis ingénieur généraliste et je réfléchis par moi-même. Alors j'ai un conseil à lui donner en fait, c'était une question. C'est qu'il suffirait de publier les études épidémiologiques de tous les vaccins. C'est très simple. En fait, vous êtes un très mauvais commercial, parce que pour vendre un vaccin, faut être commerçant. Et pour être commerçant, mais il suffit de dire, quand vous vendez un vaccin pour la grippe, regardez la dernière, ceux qui étaient vaccinés, à tant de pourcents, ils ont contracté la maladie, et dans les populations non vaccinées, regardez, le pourcentage est beaucoup plus important. Donc voilà, vaccinez-vous. Et puis là, du coup, on achète tout de suite. Mais c'est bizarre, parce que des gens qui brassent à peu près, je crois que le budget de la santé mondiale, c'est 1000 milliards de dollars, ben c'est bizarre, ces gens-là, ils sont pas bons. Ils n'arrivent pas à nous convaincre en disant, les études épidémiologiques, on ne les a pas. J'ai cherché sur le net, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé des choses très simples. Le tétanos, c'est 2 morts par an. 2 morts par an, et dans 9 cas sur 10, je crois que c'est au-dessus de l'âge de 60 ans.
De 2 morts par an en France ?
En France ?
Oui.
Extraordinaire. Et alors pour le vaccin là, contre le Covid, faut qu'il se rassure ce monsieur, faut qu'il se rassure parce que le hold-up il a déjà eu lieu puisque l'Europe a mobilisé 7 milliards d'euros pour la fabrication de vaccins. Et là, dans un article des Échos, l'Europe vient de précommander pour 2,4 milliards les vaccins. Donc faut qu'il se détende, ce monsieur. L'argent est déjà mobilisé, même si les gens ne se vaccinent pas, on est déjà vacciné financièrement. Donc faut vraiment se détendre. Laissons donc les gens mourir par leur propre choix, parce qu'ils vont tous mourir, ceux qui ne sont pas vaccinés. Regardez, 9 personnes sur 10.
On a entendu vos arguments, Joël. On a bien entendu vos arguments. Donc, laissez faire Darwin, et puis finalement, laissez le nombre assez peu élevé de morts du tétanos. Et ce que réclame Joël, Patrick Zilberman, tout simplement, c'est des études officielles. Or, il n'arrive pas à les lire, il n'arrive pas à les avoir. Est-ce qu'il y a un peu d'obscurantisme là-dessus?
Alors, c'est curieux qu'il n'arrive pas à se les procurer, parce que c'est facile de le faire. Il suffit de regarder le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France. Les études que réclame ce monsieur sont publiées régulièrement dans ce bulletin.
Pour revenir à la Ligue nationale pour les libertés des vaccins, elle réclame justement, elle aussi, le droit de tout savoir sur les vaccinations, de ne rien nous cacher. Est-ce que vous considérez ce discours comme complotiste, ou alors est-ce qu'effectivement il y a parfois quelques zones d'ombre autour des vaccins, des études des vaccins, des chiffres sur les vaccins?
Alors les zones d'ombre, je ne crois pas, parce que les vaccins sont des produits extrêmement surveillés. Le discours des ligues anti-vaccinales qui réclament de tout savoir, une information exhaustive et
de ne rien nous cacher.
De ne rien nous cacher, c'est très gentil, moi j'approuve tout à fait. Le seul problème, c'est que lorsqu'il y a vraiment un problème d'information et de tricherie, comme l'affaire Wakefield par exemple, c'est drôle, à ce moment-là, et tout d'un coup, il est plus question de mettre tout sur la table. on passe simplement au discours paranoïaque, si vous voulez, considérant à dire que les anti-vaccins sont les victimes de tout et n'importe quoi.
Mais pourquoi est-ce que, par exemple, en 2009, on s'est tellement moqué de Roselyne Bachelot parce qu'on lui a reproché d'avoir acheté trop de vaccins?
Alors, en 2009, si vous voulez, jusqu'à fin août 2009, la plupart des scientifiques étaient persuadés qu'on était dans une problématique de grippe aviaire. La grippe aviaire, c'était 60% de mortalité quand même. Hein. Donc, il y avait de quoi s'inquiéter, si vous voulez. Et donc, par conséquent, dans un premier temps, il s'agissait d'injecter 2 doses par personne de vaccin contre la grippe H1N1. Et puis, on s'est aperçu que les 2 doses n'étaient pas nécessaires, qu'une seule était suffisante, qu'on n'était pas dans une perspective de H5N1, de grippe aviaire, mais de grippe pandémique H1N1. Et à ce moment-là, si vous voulez, ben oui, il avait fallu commander, les fabricants avaient demandé aux États de commander vers mai-juin leur dose de vaccin. On en avait acheté beaucoup.
Mais il pourrait y avoir aussi une coopération entre États, et ce qui ne sert pas à un État peut servir à un autre.
C'est ce qui a été fait. Une partie des vaccins en supplément ont été donnés à l'OMS qui les a redistribués vers les pays à faible revenu. Donc, en réalité, on s'est moqué de Roselyne Bachelot. C'est comme l'affaire des masques. On est en pleine hypocrisie.
À propos du futur vaccin contre le Covid-19, s'il arrive, est-ce que, au nom de la santé publique, il sera obligatoire en France et peut-être dans le monde?
Alors, comme vous le savez, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les adultes en France.
Au nom de la liberté individuelle, justement.
Oui, exactement. Ça n'existe pas. Donc, ça me semble difficile de décréter une vaccination obligatoire contre le Covid. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des problèmes si on essaye de lancer des campagnes de vaccination. Les études aujourd'hui montrent qu'il y a déjà une partie de la population qui est hostile à la vaccination contre le Covid-19, et en particulier des groupes d'âge de jeunes adultes entre 25 et 35 ans qui, pour 40% selon certaines enquêtes, ne prendraient pas le vaccin s'il existait.
Mais est-ce qu'ils ont le savoir pour pouvoir avancer ce genre d'argument?
Ah ben c'est ça, si vous voulez, la pose aujourd'hui, la posture de beaucoup de gens qui remettent en cause les vaccins, c'est que ils refusent de se faire vacciner et ils prétendent être à eux-mêmes leur propre référence, si vous voulez. Ils rejettent tout ce qui est expertise, science, etc.
Un dernier mot, s'il vous plaît, sur l'OMS, cette organisation intergouvernementale qui est accusée de ne pas avoir été très rigoureuse ni très regardante sur la version officielle de la Chine. Est-ce dans les habitudes de l'OMS que de manquer de souffle lors des pandémies précédentes?
Alors, ça peut arriver. Son retard à l'allumage face à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, par exemple, en est une preuve. Mais en même temps, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que l'OMS est quand même une organisation intergouvernementale et non internationale. Autrement dit, ce sont les États qui font la loi. Et aujourd'hui, si vous voulez, quelles que soient les critiques qu'on peut avoir à justifier, à mon avis, par rapport à l'attitude de la direction générale de l'OMS vis-à-vis de la Chine, il reste qu'aujourd'hui l'OMS est attaqué et sous le feu de Trump et bientôt de Bolsonaro, et que par conséquent c'est le mot d'ordre, c'est tous à la défense de l'OMS.
Ouais, les États-Unis et le Brésil qui veulent supprimer leur subside sur cette organisation intergouvernementale mondiale de la santé.
C'est plus que la suppression du subside, qui est déjà une chose importante en soi, c'est la remise en cause du multilatéralisme, si vous voulez, dans le domaine de la santé publique.
Merci beaucoup Patrick Zilberman, historien de la santé. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre des vaccins, les pour, les contre. C'est publié donc chez Odile Jacob. Merci beaucoup et bonne journée.